Eh bien, bonjour à tous. Si vous nous rejoignez sur Fréquence Mistral 99.3, il est déjà 17h07 et j'ai le plaisir de recevoir nos invités. Dans un premier temps, ce sera Régis Coulanges pour une émission qui se voudra donc mensuelle sur Amnesty International. Bonjour Régis.
Bonjour.
Et puis Aurélie Vol qui nous parlera dans un deuxième temps de l'UPRO.
Tout à fait. Bonjour à tous.
Alors Régis Coulanges, voulez-vous vous présenter ?
Oui, alors je suis donc Régis Coulanges. Voilà, je suis retraité de l'éducation nationale et je suis membre d'Amnesty International depuis 1979. Donc j'étais membre individuel, puis j'ai participé au groupe de Manosque et ensuite pendant très longtemps au groupe de Digne. Et maintenant, j'assume des fonctions de conseiller national pour la région PACA. C'est-à-dire que je fais le lien entre les groupes de la région et Amnesty International France. Je reviens de Paris, justement, ce week-end. Nous avons eu un week-end de travail où tous les conseillers nationaux de toute la France se retrouvent et discutent avec le bureau exécutif, c'est-à-dire l'organe élu qui dirige la section française, ainsi que le directeur du secrétariat national, qui, lui, est un salarié. Et voilà, nous discutons de la politique du mouvement, des orientations, des choix. On fait remonter aussi les questions des groupes et puis de l'actualité aussi, des droits humains.
Alors justement, j'aimerais bien que cette émission qui sera donc mensuelle, qui peut durer entre 20 et 30 minutes, ce soit l'actualité. Donc où est-ce qu'on en est actuellement avec Amnesty International ? Quels sont les cas qui sont traités ou...
Amnesty International était un mouvement qui a été créé il y a 51 ans maintenant et qui a constamment évolué. C'est parti, bien sûr, de la révolte d'un homme, un avocat britannique qui avait lu un entrefilet dans un journal comme quoi deux étudiants portugais s'étaient retrouvés emprisonnés parce qu'ils avaient levé leur verre à la liberté dans un bar. Donc ça l'a tellement révolté qu'il s'est dit « c'est pas possible, il faudrait pouvoir agir face à de telles injustices ». Et donc il a rédigé un article qui a été repris par de très grands journaux dans le monde entier en faisant un appel à l'insurrection des consciences, c'est-à-dire que toutes les personnes, quelles qu'elles soient ou qu'elles se trouvent, puissent se révolter, s'indigner et agir contre de telles injustices. Donc c'est comme ça qu'Amnesty est né, parce qu'il a eu énormément de réponses du monde entier. Très vite, Amnesty est devenue une association reconnue dans la lutte pour la défense de la liberté d'expression. Ces gens qui étaient emprisonnés pour leurs idées, très souvent ils étaient torturés, même exécutés parfois, donc... On est devenu une association contre la torture, contre la peine de mort, contre les exécutions extrajudiciaires, pour des procès équitables. Et donc on s'est occupé énormément de tout ce qu'on appelle les droits civils et politiques. Et puis, en devenant de plus en plus international, on s'est rendu compte que les droits civils et politiques, c'était très bien, mais notamment nos amis des sections du Sud nous ont dit « oui, mais... il y a aussi les droits économiques, sociaux et culturels, et en fait, c'est un tout. » Et c'est vrai que des gens qui vivent dans la pauvreté, qui vivent dans des bidonvilles, non seulement ils n'ont pas le droit à un logement décent, on ne leur est pas reconnu, mais en même temps, très souvent, on ne les écoute pas. Ils sont privés, leurs enfants sont privés d'école, ils n'ont pas droit à la santé. Et puis on les expulse facilement, violemment, sans recours, sans compensation. Donc en fait, on est revenu à l'origine en fait, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui au départ, quand elle a été rédigée, ne séparait pas les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux. C'était un ensemble et tous ces droits sont interdépendants et en supprimer un, c'est souvent en supprimer beaucoup d'autres. Voilà, alors de ce fait, nous avons lancé une campagne qui s'appelle la campagne Dignité et qui porte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Ça fonctionne toujours un peu sur le même modèle, c'est-à-dire que nous menons des enquêtes, nous envoyons des chercheurs sur des situations graves de violation de droits humains. Ensuite, avec le fruit de ces enquêtes, nous préparons des actions et nous faisons signer le maximum de personnes. Voilà. Donc c'est toujours enquête, rédiger des rapports et puis ça débouche sur les actions des membres d'Amnesty ainsi que du grand public que nous interpellons. Alors pour cette campagne Dignité, nous avons préparé un support sous forme d'une grande exposition photographique. Cinq grands photographes professionnels ont accepté de travailler pour Amnesty, bénévolement. Et nous les avons donc envoyés en mission dans 5 pays différents pour des problèmes importants de violation des droits économiques, sociaux et culturels. Donc cette exposition se comporte de 5 reportages. En Égypte, c'est les oubliés du Caire. Un autre en Inde, la guerre des terres dans l'état de l'Orissa. Le troisième se passe en Macédoine et concerne la discrimination des Roms. Vous voyez que c'est un sujet qui concerne beaucoup de pays.
Et
la France n'est pas exempte de critiques. Le Mexique avec les violences dans la Montagna et le Nigeria avec les délogés de Lagos. Voilà. Donc cette exposition a été présentée en premier à Paris, très grande exposition, et elle a été mise à disposition de groupes en un format plus réduit. Et c'est pour ça que le groupe de Digne va la présenter du 4 au 15 décembre à la médiathèque intercommunale des Trois-Vallées à Digne. Voilà, donc l'inauguration, le vernissage, si vous voulez, aura lieu le mardi 4 décembre à 18h. En présence de Mireille Dassé, qui est la responsable des droits économiques, sociaux et culturels à la section française à Paris. Donc elle vient spécialement pour faire une conférence qui aura lieu à l'intérieur de la salle d'exposition, parce qu'en même temps elle utilise les photos pour le déroulement de sa conférence. Donc nous avons invité, bien sûr, toutes les personnalités qui sont toujours invitées par la médiathèque lors de ces expositions, mais nous allons aussi lancer des invitations à toutes les associations qui luttent contre la pauvreté. Et il y a une invitation qui est partie pour ma collègue de l'UPRO. Voilà, alors premier temps, donc une exposition du 4 au 15 décembre visible aux heures d'ouverture de la médiathèque, avec le 4, l'inauguration à 18h, le vernissage et la conférence ouverte à tous, bien sûr.
Alors, ce sera payant? Comment ça se passe?
Alors non, c'est une entrée libre. La conférence aussi, petit apéritif à la fin.
Par rapport au marathon des signatures?
Alors, le marathon des signatures, donc c'est une opération qui est au niveau mondial. Qui se déroule toujours autour du 10 décembre, qui est la journée anniversaire de la signature de la Déclaration universelle des droits humains. Donc Amnesty International organise le marathon des signatures pour montrer un petit peu le travail que l'on fait tout au long de l'année, et puis pour montrer aux gens qu'au-delà de l'indignation, on peut aussi s'engager et signer des pétitions. C'est déjà un début d'engagement. Donc on va présenter pour ce marathon, nous allons le faire le samedi 8 décembre, Donc en même temps, les gens pourront voir l'exposition, bien sûr. Mais, et nous aurons, alors on appelle ça un marathon parce qu'on va avoir 12 pétitions pour 12 cas de violation des droits humains.
Il ne faudra pas courir entre chaque pétition.
Non. Elles seront très près les unes des autres. Et puis on remettra en même temps aux gens qui signeront un document sur lequel ils pourront écrire personnellement des messages de soutien à certains cas, pour certains cas. Et voilà, donc on essaie d'avoir pendant ces quelques jours un maximum de signatures. Et on se rend compte que ça porte ses fruits, puisque chaque année, pour chaque marathon, on a de plus en plus de monde. Et dans les cas qu'on présente, dans les 12 cas qu'on présente, il y en a déjà quelques-uns qui trouvent une solution heureuse très rapidement, vu la masse énorme de signatures, de lettres qu'on obtient. Et puis, pour les autres cas, les situations s'améliorent. Et en tous les cas, on met un grand coup de projecteur sur ce que les gouvernements, certains gouvernements voudraient cacher, voudraient taire.
Ça fait vraiment très plaisir, en tout cas, de savoir qu'une simple signature peut permettre la libération ou l'amélioration de situations, de cas très graves, quoi.
Oui, alors c'est vrai que des fois, ça nous vient à douter de dire, mais bon, à quoi ça sert de signer ? Est-ce que vraiment c'est utile ? Mais je pourrais vous citer un cas. Là, je viens de rencontrer, là, le jeudi, vendredi, Biram, qui est le président de l'IRA Mauritanie. C'est une association, une ONG, qui lutte contre l'esclavage. Et l'esclavage en Mauritanie, c'est très présent, puisque bien que ce pays ait signé toutes les conventions de l'ONU, etc., il a dans son institution judiciaire, il s'appuie toujours sur des livres écrits entre le 9e et le 15e siècle, des livres de théologie, entre guillemets, qui justifient l'esclavage. Et justifient l'esclavage et aussi la soumission de la femme. Biram, donc, a eu le courage politique de brûler ses livres sur la place publique. Il a été arrêté aussitôt, violemment, et le gouvernement a décidé qu'il devait être exécuté. Et là, il y a une pression énorme d'Amnesty International et d'autres associations de défense des droits humains, dont la Ligue des droits de l'homme et SOS Esclavage Tolérance Zéro. Et c'est grâce à la pression de ces organisations et donc des militants qui soutiennent ces organisations que Biram a eu droit à un procès et qu'il a été libéré. Mais bon, il a pris un risque politique énorme. Et en même temps, ça a fait un choc dans la civilisation mauritanienne qui s'est vraiment posé les questions, qui s'est dit, mais oui, c'est pas le courant qui l'a brûlé, mais voilà. Donc, on voit par cet exemple que là, il est en France pour quelque temps. Là. Et... il nous dit, mais votre action a un poids énorme, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est énorme et il faut continuer. Et c'est vrai que ça nous motive.
Ah oui, c'est vraiment important. Et ça fait plaisir en tant que citoyenne de voir qu'il y a des gens comme vous qui fassiez de tels... voilà. Et si nous, on peut faire quelque chose, donc c'est signer les pétitions et puis, bien sûr, vous aider financièrement aussi... En devenant membre donateur.
Oui, alors Amnesty, c'est...
Ou ça... acheter, vous allez certainement vendre des calendriers.
Voilà, alors Amnesty, en fait, voilà, c'est une des rares associations, organisations non gouvernementales à ne recevoir aucune subvention, pour la bonne raison qu'elle les refuserait et qu'elle n'en demande pas, justement, parce que comme elle interpelle les États ainsi que les grandes sociétés multinationales.
Il n'y a pas de risque d'être acheté par un État
voilà.
pour
on veut garder notre indépendance. Donc c'est vrai qu'il y a une recherche de fonds qui est importante. Donc pour agir, pour Amnesty, Amnesty donne à chaque citoyen la possibilité d'agir. Donc agir, c'est financer, oui, faire des dons, bien sûr. C'est important. C'est signer des pétitions en allant sur le site d'Amnesty. c'est devenir membre, adhérer aussi à l'association, parce que c'est plus on est nombreux, plus on est puissant, plus notre voix est écoutée. Et puis voilà, et puis c'est, on peut faire aussi plus si on a plus de temps, on peut rejoindre un groupe comme le groupe de Digne ou celui de Manosque dans la région ou celui de Barcelonnette.
Combien vous êtes à Digne?
À Digne, nous sommes une dizaine dans le groupe, puis il y a des membres individuels qui sont dans la région, qui nous aident aussi, il y a des sympathisants qui nous soutiennent ou qui font partie d'un relais Action Urgente. Et qui, de temps en temps, notre demande envoie une ou deux lettres par mois pour des cas vraiment urgents. Voilà, et donc c'est ouvert à tout le monde.
Vous n'organisez pas de spectacle au profit d'Amnesty, si ?
Ça nous arrive.
Ça arrive.
Ça nous arrive. Alors, chaque groupe a un peu sa technique pour essayer de récupérer un peu des fonds, quoi. C'est vrai qu'à Digne, nous faisons une foire aux livres. À Manosque aussi. Il nous est arrivé l'année dernière de faire un spectacle musical offert par Régis Desjasmin, qui est un militant d'Amnesty de Manosque, et qui avait fait venir un musicien qui jouait du serpent. C'est un instrument du Moyen-Âge.
Ah oui.
Voilà. Donc ça nous arrive aussi, oui, bien sûr.
Il faut étudier toutes les, ben toutes oui, les pistes. Voilà. Oui,
Vous-même, hein, si un jour vous voulez chanter pour
c'est
nous.
Ce que, c'est ce que je voulais vous proposer.
On en reparlera, mais ça sera avec plaisir.
Oui, c'est tout à fait envisageable. Eh bien, donc, le rendez-vous, c'est le 4 décembre pour
Voilà, alors je vous redis un peu les,
voilà,
un peu les dates.
Toutes.
Donc, du 4 au 15 décembre, aux heures d'ouverture de la médiathèque, vous pourrez découvrir l'exposition Dignité, une exposition de 5 grands photographes professionnels. Le 4 décembre... Il y aura le vernissage de cette exposition à 18h avec une conférence de Mireille Dassé, donc la responsable des droits économiques, sociaux et culturels à la section française d'Amnesty. Et le samedi 8 décembre, toujours dans les locaux de la médiathèque, dans le grand couloir, nous organiserons le marathon des signatures. Donc venez nombreux, apportez votre soutien. Signer nos pétitions. Vous pourrez également avoir les adresses des personnes, des cas dont on s'occupe pour leur envoyer un message de soutien. On vous indiquera comment aller sur le site pour suivre. Parce que ces 12 cas vont être suivis tout au long de l'année. Hein. Et ce ne sont pas que des cas individuels. Donc vous avez des gens, oui, vous avez par exemple un militant, un avocat chinois qui est en prison. Vous avez aussi des ensembles de personnes. Par exemple, il y a tout un groupe qui vit dans le delta du Niger et qui ne peut plus vivre décemment parce que le delta a été pollué notamment par Shell. Hein. Voilà. Donc, vous avez des cas qui concernent des communautés entières, hein, et des cas individuels. En fait, ça représente un peu l'ensemble de toutes les violations qu'on peut trouver de par le monde, quoi.
Très bien. Je voulais vous demander justement, oui, par rapport le rôle du citoyen qui veut aider Amnesty International, c'est aussi d'écrire des lettres aux prisonniers politiques. C'est aussi, on peut remonter auprès de notre gouvernement, mais aussi il y a des correspondances. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moyen d'aider Amnesty?
Alors, d'aider Amnesty, ben c'est participer à ces actions, à ces campagnes. Bon, il y a la signature des pétitions, bien sûr. Il y a l'envoi de lettres plus personnelles, soit aux autorités. Il y a aussi les lettres de soutien aux victimes.
Oui.
Et puis, on fait aussi un travail pour que la législation s'améliore. On a contribué notamment à la création de la Cour pénale internationale. On a contribué aussi fortement pour qu'il y ait enfin un traité sur le commerce des armes, afin qu'on puisse contrôler ce commerce qui n'est pas contrôlé. Hein. On contrôle beaucoup plus les bananes que les armes. Hein. C'est dramatique. Et donc, c'est ces pressions qu'on exerce. Et c'est chacun d'entre nous qui peut rejoindre Amnesty pour agir ensemble.
Vous-même, vous êtes amené vous êtes plutôt amené vers le gouvernement, enfin, parlementaire, mais est-ce que vous allez aussi faire des enquêtes ? Ou il faut être...
Alors, nous avons des chercheurs hein, qui mm-hmm. sont...
Il faut être je ne sais pas, formés.
Qui sont payés pour ça, voilà, qui sont formés. Hein.
Oui,
donc, on a des chercheurs. Les chercheurs sont basés à...
Est-ce que ce sont des journalistes ?
Ce sont des spécialistes d'abord, ce sont des spécialistes des pays dont ils s'occupent.
Mm-hmm.
Hein, par exemple, les chercheurs pour l'Afrique francophone sont, eux, à Paris, à la section française, parce que, bon, c'est plus pratique, puis il y a la facilité de la langue mm-hmm. hein, commune. Et, par exemple, dernièrement, il y a Gaëtan, qui est le chercheur d'Amnesty pour l'Afrique francophone, qui est parti en mission en Côte d'Ivoire.
Mm-hmm.
Donc, qui est allé interroger les ministres, visiter les prisons, interroger les opposants. Parce qu'il faut
être sécurisé quand même. Enfin, j'imagine qu'on ne peut pas partir seul comme ça.
Oui, alors Amnesty, bien sûr, rentre avec les visas, les autorisations. Mmh. Et puis, les chercheurs sont protégés par le nom d'Amnesty. Parce mmh. que, voilà, c'est quand même une association qui est reconnue. Et on a... On hésite un peu à s'attaquer à ce qu'elle dit et aux gens qui travaillent pour elle.
Mmh.
Donc c'est une protection. De même, Biram nous disait, mais d'être soutenu par Amnesty, ça n'a pas de prix. C'est énorme comme protection. Quoi. Mmh.
Bien. Écoutez, je vous remercie pour votre intervention sur notre antenne. Hein, et puis, je rappelle aux auditeurs que ce rendez-vous donc, sera mensuel, mis à part le dernier lundi du mois de décembre, puisque c'est le 31 décembre. Donc, ce sera l'exception. Mais sinon, ce sera notre rendez-vous chaque dernier lundi du mois, à partir de 17h.
Très bien.
Voilà, donc je vous remercie et puis on va écouter un peu de musique et après je retrouve Aurélie Vol pour nous parler de l'UPRO et des camps d'internement qu'il y a dans la région, pas très loin, au Chaffaut, pas très loin de chez nous. On se retrouve tout de suite.